Bien, bonjour à toutes et à tous. Avant de commencer, je vous invite à prier. Seigneur Dieu d'éternité, toi qui as créé toutes choses, toi qui as décidé toutes choses avant la fondation du monde, nous venons ce matin ouvrir ta parole que tu as inspirée par ton Esprit Saint. Que cette parole, Seigneur, ce matin puisse nous enseigner, puisse nous convaincre, puisse nous corriger. Que cette parole puisse nous instruire dans ta justice pour l'édification de ton Église, Seigneur, pour l'édification de chacun d'entre nous. Saint-Esprit, viens au secours de mes faiblesses et que ta parole seule soit entendue ce matin. Et que, Seigneur, elle puisse toucher les cœurs, transpercer les cœurs, afin que là où chacun est, puisse apprendre, puisse être encouragé, et puisse ainsi continuer sur le chemin de sanctification là où tu les as placés. Merci encore, Seigneur, pour cette parole qui est si merveilleuse. Dans le nom de Jésus. Amen. Alors, lorsque nous sommes étudiants, je sais qu'ici, il y a des gens qui préparent, ou qu'on a été étudiants, il y a quelques années, mais je sais qu'ici, il y en a qui préparent les brevets, préparent des bacs. Ce que moi, j'aimais faire, et ce qui est recommandé par les professeurs, c'est de faire des résumés. De faire des résumés sur des cours importants. Et dans ces résumés, on inscrit l'essentiel du cours, ce qui nous permet, le jour des révisions, d'éviter de relire 3, 4, 5 chapitres, mais en relisant cette fiche, de se souvenir, par exemple, pour le thème comme l'histoire sur la Seconde Guerre mondiale, les dates clés de cette Seconde Guerre mondiale, les personnages clés, ce qui s'est passé avant, pendant et après. On va écrire, comme je l'ai dit, des dates clés. On va écrire les choses essentielles qui, nous pensons, seront demandées le jour de l'examen. Ainsi, en un coup d'œil, on se souvient de notre cours et on peut se rafraîchir la mémoire rapidement, sans avoir à tout relire des dizaines et dizaines de pages. Ce matin, c'est ce que propose ce passage bien connu dans la parole. Je mets ma montre pour pas dépasser le temps, comme Jackie. Hop. Voilà. Alors, ChatGPT m'a dit que pour les 3684 mots que j'ai écrits sur Word, ça me devrait me prendre une demi-heure. Donc, si ça dépasse, c'est pas de ma faute. C'est ChatGPT qui s'est trompé. Mais je sais que vous pardonnerez ChatGPT et vous me pardonnerez aussi. Voilà. Cela est dit. Alors, ce passage que nous allons lire dans l'évangile de Luc, c'est ce que je viens de dire en introduction, c'est un résumé. Un passage bien connu au chapitre 23 et qui nous parle de la crucifixion de Jésus-Christ. Cependant, il y a la grande différence avec les cours d'histoire, c'est que la lecture de la parole de Dieu se fait à tous les jours et ne doit pas se faire uniquement quand nous sommes dans les soucis, quand nous sommes dans les problèmes. Frères et sœurs, si l'évangile de Jésus-Christ devient un message banal, alors nous sommes en danger. Nous sommes en grave danger, car cela sous-entend que nous avons oublié qui nous étions. Nous avons oublié qui est Jésus et ce qu'il a fait à la croix. Nous ne réalisons plus la grandeur de son œuvre. Nous oublions qu'à chaque jour que nous Nous avons besoin de sa grâce pour pouvoir continuer sur le chemin de la sanctification. Nous devons à chaque jour être conscients que la grâce et l'Évangile, autrement dit la bonne nouvelle de Dieu, se vit à chaque jour que Dieu fait. Le passage que nous allons voir résume de façon claire la bonne nouvelle, comment nous étions avant, comment Dieu nous a sauvés, et le choix de l'homme devant cette bonne nouvelle. D'ailleurs, Paul a dit aux Corinthiens, dans 1 Corinthiens 2, verset 2, « Car je n'ai pas eu la pensée de savoir parmi vous autre chose que Jésus-Christ et Jésus-Christ crucifié. » Revenir à l'essentiel, c'est revenir toujours à Jésus-Christ. L'Évangile est centré sur Christ, la parole de Dieu de Genèse à Apocalypse est centrée sur Christ. Alors sans plus tarder, ouvrons nos Bibles, allumez vos portables et allez à Luc 23, versets 32 à 43. On conduisait en même temps deux malfaiteurs qui devaient être mis à mort avec Jésus. Lorsqu'ils furent arrivés au lieu appelé Crâne, ils le crucifièrent là, ainsi que les deux malfaiteurs, l'un à la droite, l'autre à gauche. Jésus dit « Père, pardonne-leur, car ils ne savent ce qu'ils font. » Ils se partagèrent ses vêtements en tirant au sort. Le peuple se tenait là et regardait. Les magistrats se moquaient de Jésus, disant « Il a sauvé les autres, qu'il se sauve lui-même, s'il est le Christ, l'élu de Dieu. » Les soldats aussi se moquaient de lui. S'approchant et lui présentant du vinaigre, il disait « Si tu es le roi des Juifs, sauve-toi toi-même. » Il y avait au-dessus de lui cette inscription « Celui-ci est le roi des Juifs. » L'un des malfaiteurs crucifiés l'injuriait, disant « N'es-tu pas le Christ? Sauve-toi toi-même et sauve-nous. » Mais l'autre le reprenait et disait « « Ne crains-tu pas Dieu, toi qui subis la même condamnation ? Pour nous, c'est justice, car nous recevons ce qu'ont mérité nos crimes. Mais celui-ci n'a rien fait de mal. » Et il dit à Jésus, « Souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton règne. » Jésus lui répondit, « Je te le dis en vérité, aujourd'hui tu seras avec moi dans le paradis. » Amen. Ici, Luc décrit la crucifixion de trois personnes. Dans notre passage, il y a donc trois croix qui sont dressées sur cette colline. Et ce matin, j'aimerais que nous regardions à chacune de ces croix. Ici, Luc nous décrit la crucifixion de Jésus entre deux brigands. Il s'agit du point culminant du plan de Dieu. Toute la Bible converge vers ce moment, depuis Genèse jusqu'aux Évangiles, au Nouveau Testament. Tout ce que l'humanité a vécu, tout ce que Dieu a permis que son peuple vive, est pour ce moment crucial. Ce qui se déroule à ce moment, c'est le plan prédéterminé par Dieu, le Père. Il ne s'agit pas d'un plan B, mais bien du seul plan que Dieu a élaboré, a décrété avant la fondation du monde. Pourquoi ? Afin de sauver des femmes et des hommes perdus, condamnés à subir la colère de Dieu. Alors oui, ce passage est un résumé et un condensé extraordinaire de l'œuvre de Jésus-Christ à la croix, et qui nous permet de comprendre comment et de quelle manière Dieu sauve les hommes. Toute l'histoire humaine a œuvré pour l'aboutissement de cette journée qui nous est décrite par Luc. Et Dieu, qui est souverain sur tout, qui maîtrise les temps, qui maîtrise les circonstances, qui maîtrise les astres, ne pouvait pas faire naître Jésus Vous en conviendrez, avant que les Romains aient inventé le supplice de la croix. Et par conséquent, Jésus ne pouvait pas aussi naître après la fin de l'utilisation du supplice de la croix. Dieu est au contrôle de tout, et si aujourd'hui nous ne comprenons pas tout ce qui se joue, ce qui se trame dans ce monde qui part dans tous les sens, lui, Dieu le sait, et Dieu est au contrôle. Il le sait, il n'est pas pris au dépourvu. Non, Dieu est souverain et Dieu agit aujourd'hui. Dans ce passage, il ne s'agit pas d'une parabole. Il s'agit bien de deux brigands qui ont existé et c'est une vraie histoire. Il faut savoir aussi qu'à cette époque, on ne crucifiait pas des simples voleurs ou des personnes qui auraient fait des choses mineures, mais on crucifiait des rebelles, on crucifiait des pillards, on crucifiait des meurtriers. Donc être crucifié à cette époque, c'était parce qu'on avait fait des choses très graves. Certains commentaires bibliques pensent que ces deux brigands devaient faire partie des partisans de Barabbas. Ce Barabbas qui a été libéré par Pilate en échange de qui ? En échange de Jésus. Comme nous l'avons lu, la crucifixion a lieu sur un mont, sur une colline de Golgotha, appelé le mont du crâne. Et si dans la parole il est écrit cela, c'est que c'est un détail important, parce que dans la parole de Dieu, tous les détails sont importants. Et ce détail révèle encore une fois la précision et l'ignorance de la Bible. L'ignorance de la Bible, c'est dire que la Bible est parfaite et n'a aucune erreur. Et à votre avis, à quelle prophétie cela vous fait penser ? Le fait qu'on parle du crâne. Je vous ai déjà endormi. Il s'agit de ce que Dieu avait prédit dans Genèse, chapitre 3, verset 15. Je mettrai l'hostilité entre toi et la femme, entre ta descendance et sa descendance. Celle-ci t'écrasera la tête et tu lui blesseras le talon. Jésus est de la descendance de Ève. Et à ce moment-là, lorsque sa croix est dressée et que lui est dressé dessus, il écrase la tête. Un crâne, c'est une tête. Il écrase la tête de Satan. C'est donc ce jour où Jésus a été crucifié, qu'il a écrasé la tête de Satan et qu'il a vaincu la mort. Ce jour prophétisé par Dieu lui-même à Adam et Ève est en train de se dérouler dans ce texte que Luc nous relate. Le paroxysme de toute l'histoire humaine est décrit ici par Luc dans le passage que nous venons de lire. Toutes les Écritures nous amènent à ce jour glorieux où Dieu a manifesté son amour à toute l'humanité en sacrifiant son Fils unique. C'est donc un tableau qui représente et résume tout ce que Dieu a fait pour les hommes. Comme je l'ai dit, nous avons ici trois croix. La première, alors que Jésus se faisait injurier par les pharisiens, les juifs et les romains, toutes les personnes présentes ne s'imaginaient pas ce qu'il se passait spirituellement ce jour. Luc est en train de nous décrire le plan établi par Dieu avant la fondation du monde. Les personnes n'avaient pas conscience de ce qui se jouait devant les yeux. Jésus, pourtant, l'avait annoncé à ses disciples, souvenez-vous. Mais ceux-ci ne le comprirent qu'une fois Jésus-Christ ressuscité. Alors, qu'est-ce qui se joue ici ? Donc regardons à cette première croix où Jésus est crucifié. En ces jours, les témoins, même s'ils ne le savent pas, assistent à l'expiation des péchés du monde. La justice de Dieu est satisfaite en ce jour. De quelle manière Dieu satisfait sa justice ? Dieu le Père déverse sa colère sur son Fils. À ce moment, Dieu le Père se détourne de son Fils et déverse sa colère. Jésus subit à notre place notre condamnation. Il subit notre malédiction, il subit notre mort et prend sur lui tous nos péchés afin que nous soyons sauvés. Par sa mort, son enterrement et sa résurrection, Jésus offre le pardon des péchés et la vie éternelle. En ce jour, Jésus accomplit le salut. Il achète le salut et il se rachète un peuple. Jésus nous délivre de la colère à venir. 1 Thessaloniciens 1, versets 9 et 10. Car on raconte à notre sujet quel accès nous avons eu auprès de vous. Et comment vous êtes convertis à Dieu en abandonnant les idoles pour servir le Dieu vivant et vrai. Et pour attendre des cieux son Fils, qu'il a ressuscité des morts, Jésus qui nous délivre de la colère à venir. Amen. Ceux et celles qui mettent leur confiance en Jésus sont délivrés de cette colère qui vient. Voyons maintenant la seconde croix. Au verset 39, nous arrivons au premier brigand qui subit la même mort que Jésus et qui décide, lui, de suivre la majorité. Comme nous l'avons vu, les Juifs, les religieux, les pharisiens et ceux qui étaient présents pour la majorité se moquaient de Jésus. Même les soldats romains se moquaient de lui. Ce brigand décide, lui aussi, de se moquer de Jésus. Aujourd'hui, rien de nouveau sous le ciel. La majorité de l'humanité rejette, blasphème Dieu. Il n'est pas rare d'entendre « si Dieu existe, pourquoi n'arrête-t-il pas les guerres ? Si Dieu existe, pourquoi ne fait-il pas ça ? Si Dieu existe, pourquoi n'arrête-t-il pas la souffrance ? Pourquoi ne guérit-il pas tous les malades ?» Le brigand blasphème Jésus en se moquant, en disant « si tu es le Christ, sauve-toi toi-même et sauve-nous ». Toute sa vie, cet homme ne s'est pas préoccupé de Dieu. Il l'a renié toute sa vie, alors même que Dieu s'est révélé à lui. Qu'est-ce qui peut nous faire dire cela, que Dieu s'est révélé à lui ? Eh bien, une fois de plus, c'est la parole de Dieu qui nous le dit. Comment cet homme a-t-il reçu cette révélation de Dieu ? Est-ce que quelqu'un a une idée ? Pour vous réveiller, le Saint-Esprit jaillit ici. Dieu s'est révélé et se révèle à tous les hommes. La réponse se trouve dans Romains 1, versets 18 à 25. On ne va pas le lire parce qu'on n'a pas le temps. Mais dans ce texte, tout être humain a reçu la révélation de Dieu. Vous le lirez, vous verrez. Prenez pas pour argent comptant ce que je vous dis, comme à chaque fois, mais contrôlez, vérifiez. Romains 1, versets 18 à 25. Nous dit, tout être humain a reçu la révélation de Dieu par sa création. Mais l'homme a préféré et préfère encore aujourd'hui adorer les créatures de Dieu plutôt que le Créateur. Et dans ce même passage, la parole de Dieu nous dit « alors que les hommes sont inexcusables ». Ce qui veut dire qu'aucun être humain n'aura d'excuse devant le trône de Dieu, devant le tribunal de Dieu, ce jour où chacun recevra soit la vie éternelle, soit l'enfer éternel. Donc Dieu s'est révélé à ce brigand pendant sa vie. Et au moment où ce brigand reçoit une plus grande révélation, en se tenant près du Fils de Dieu, il a quand même continué à le renier et à le blasphémer. Ici, nous voyons que ce brigand ne veut pas de Dieu. Ce qu'il veut de Dieu, c'est de son aide. De son aide pour ne pas mourir ce jour-là, sur cette croix, mais pour pouvoir être sauvé, en descendre et continuer de vivre sa vie de péché. Il veut en fait se servir de Jésus pour arriver à ses fins. Pourquoi ? Parce qu'il ne se voit pas pécheur, contrairement au second brigand. Alors il est vrai que lorsque l'être humain se trouve dans la souffrance ou bien dans un danger immédiat de mort, il a tendance à se tourner vers Dieu pour que Dieu puisse le sortir de sa souffrance, puisse le sortir de sa maladie, puisse le sortir d'une situation désespérée. Mais ce n'est pas pour cela qu'il se repent et accepte Christ comme Sauveur et Seigneur. Dans la Bible, nous avons un exemple. Vous connaissez ce passage dans Luc, chapitre 17, versets 11 à 19. Et ce passage, c'est le passage des 10 lépreux. Je pense que vous connaissez ce passage. Et qu'est-ce qui s'est passé dans ce passage ? Voilà, Anita a fait le résumé. Les 10 ont été guéris et un seul est venu rendre gloire à Jésus. Au verset 17 jusqu'à 19, il est dit, Jésus prit la parole et dit, les 10 n'ont-ils pas été guéris? Et les 9 autres, où sont-ils? Ne s'est-il trouvé que cet étranger pour revenir et rendre gloire à Dieu? Puis il lui dit, donc à celui qui est venu, « Lève-toi, vas-y, ta foi t'a sauvé. » Les circonstances extrêmes n'ont jamais converti le cœur de l'homme, car ces circonstances engendrent une tristesse humaine qui s'apitoie non pas sur le péché de l'homme, non pas sur sa culpabilité, mais qui s'apitoie sur la souffrance ponctuelle et sur ses circonstances extrêmes. L'homme veut être délivré de ce qui le fait souffrir sur cette terre, mais il ne veut pas être sauvé de l'enfer. Et il n'en a même pas conscience. Donc il y eut, pour les matheux, 10% des lépreux qui sont venus reconnaître et glorifier Jésus. Le dixième lépreux, qui est revenu, a reconnu que spirituellement il était mort et que Jésus-Christ lui offrait plus qu'une guérison physique, mais il lui offrait aussi le salut. Et c'est pour cela qu'il est revenu donner gloire à Dieu auprès de Jésus. Entre parenthèses, ce passage montre que Jésus est Dieu, puisqu'il dit ce passage que les lépreux est venu rendre gloire à Dieu. Et en venant se prosterner auprès de Jésus, ainsi, ce lépreux reconnaît Jésus est Dieu. Donc, comme j'ai dit, c'est pour cela qu'il est revenu donner gloire à Dieu et auprès de Jésus. Ainsi, ce lépreux a eu double bénédiction. La guérison physique, certes, mais surtout la guérison spirituelle. Et le salut d'être auprès de Jésus. De même, Paul a écrit dans 2 Corinthiens, chapitre 7, versets 9 à 10, 2 Corinthiens chapitre 7, versets 9 à 10. Je me réjouis maintenant non pas de ce que vous avez été attristé, mais de ce que votre tristesse vous a amené à changer d'attitude. Car vous avez été attristé selon Dieu, si bien que vous n'avez subi aucun dommage de notre part. En effet, la tristesse selon Dieu produit une repentance qui conduit au salut. C'est ce que nous venons de voir avec le lépreux. Et que l'on ne regrette jamais, tandis que la tristesse du monde produit la mort. Ce brigand était certainement triste de sa situation, mais c'était une tristesse du monde charnelle et qui a produit la mort pour lui. Maintenant, nous savons que Dieu utilise aussi nos circonstances afin de nous éveiller à sa réalité, afin de nous faire réfléchir sur lui. Dieu vient nous rencontrer dans notre souffrance, Dieu vient nous rencontrer dans nos maladies, nos situations financières désespérées, notre situation familiale plus que compliquée. Mais Dieu utilise nos circonstances pour nous amener à la repentance et nous permet de reconnaître notre culpabilité entière. Pourquoi ? Parce que la parole de Dieu dit que notre péché a déclenché la colère de Dieu sur tous les hommes, sans exception. Colossiens 3, verset 6, « C'est pour cela que vient la colère de Dieu sur les rebelles. » Ce verset nous montre la gravité du péché et que la conséquence de notre péché, c'est la colère de Dieu sur nous. Il n'y a pas de péché mignon comme nous pouvons l'entendre. « Ah, de toute façon, c'est son péché mignon. » Non, le péché, c'est du sérieux. Et en tant que chrétiens, nous devons haïr le péché. La tristesse venant de Dieu produit en nous la repentance, tandis que la tristesse qui vient du monde produit la mort. Ce qui veut dire que la tristesse du monde ne peut pas produire la repentance, et donc elle produit par conséquence la mort spirituelle. Aucune circonstance aussi extrême soit-elle ne produira la repentance. C'est bien ce que nous avons vu avec ce premier brigand. Vous en conviendrez qu'il ne pouvait pas être dans une situation pire que celle-là. Il était à quelques heures de mourir, sur une croix clouée, ne pouvant par lui-même se sauver et descendre de la croix. Et pourtant, il a décidé de continuer à rester dans son péché. Et pourtant, il a entendu le second brigand lui dire « Ne crains-tu pas Dieu ?» Le second brigand, quelque part, l'évangélisait en disant « Mais ne reconnais-tu pas le Fils de Dieu ?» Il a continué à vouloir rester dans son péché. Et comme nous l'avons vu, seul Dieu peut nous amener à la repentance qui mène à la vie. Jésus lui-même a dit dans Matthieu 3, verset 8, « Produisez donc du fruit digne de la repentance. » La tristesse de Dieu mène à la repentance, et cette repentance ne produit pas la mort, mais la vie. Et elle doit se voir dans nos vies par les fruits que nous portons. Maintenant, voyons la troisième croix. Alors, avant de voir la troisième croix, je souhaiterais lire le passage de Matthieu 27, verset 44. Pour ceux et celles qui connaissent bien leur parole, ils doivent se dire « Mais là, il y a un os, il y a quelque chose. » Matthieu 27, verset 44. Qu'est-ce qu'il est dit ? « Les brigands crucifiés, avec lui, l'insultaient eux aussi de la même manière. » Les brigands, au pluriel, crucifiés avec lui, l'insultaient eux aussi de la même manière. Nous voyons que dans le récit de Matthieu, il nous parle de ces deux brigands insultant Jésus-Christ. Alors que dans le récit de Luc, nous n'avons qu'un seul brigand qui blasphème Jésus. Jusque-là, vous êtes tous d'accord ? Bien. Est-ce qu'il y a une contradiction dans la parole de Dieu ? Ce qu'on appelle une question rhétorique, et la réponse est non. Il n'y a jamais de contradiction dans la parole de Dieu. Alors c'est important, et on va creuser. Non, certainement pas, nous croyons que la parole de Dieu est inhérente, comme je l'ai dit. Inhérente, qui veut dire sans erreur. Ce qu'il faut savoir, c'est que le récit de Matthieu était écrit depuis une certaine perspective. Et donc, le récit de Luc est décrit d'une autre perspective. En d'autres termes, c'est-à-dire que Matthieu et Luc décrivent ce qu'ils voient à des moments différents dans le temps. Donc, Matthieu décrit la crucifixion certainement au début, lorsque Jésus est crucifié et que les deux brigands sont là aussi crucifiés. Tandis que Luc décrit, je pense, la crucifixion un peu plus tard, ou au moment, pardon, où le second brigand reprend le premier pour lui dire « N'as-tu aucune crainte de Dieu ?» Alors la question que nous devons alors nous poser, c'est « Qu'est-ce qui s'est passé entre ces deux moments ?» Pour que l'attitude du brigand change du tout au tout. Ce brigand était comme l'autre. Il blasphémait, il injuriait Jésus. Et à un moment donné, il change de discours, il change de message, il change d'attitude. Qu'est-ce qui a fait que le brigand puisse reprendre son compère? Qu'est-ce qu'a fait le brigand pour qu'il puisse aussi reprendre son compère? En lui disant quoi? On va relire. Ne crains-tu pas Dieu, toi qui subis la même condamnation? Pour nous, c'est justice, car nous recevons ce qu'ont mérité nos crimes. Mais celui-ci n'a rien fait de mal. Et il dit à Jésus, « Souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton règne. » Jésus lui répondit, « Je te le dis en vérité, aujourd'hui tu seras avec moi dans le paradis. » Premièrement, nous voyons que ce brigand, en disant « Ne crains-tu pas Dieu » à son compère, reconnaît que l'homme qui est crucifié à côté d'eux est Dieu. Il reconnaît la divinité de Jésus-Christ. Au verset 41, il reconnaît pleinement que lui, il est pécheur et que la sentence qu'il subit n'est que justice à cause de ses crimes. Il ne se trouve plus aucune excuse, mais réalise que son péché mérite la mort et que ce n'est que justice pour lui. Mais en même temps, il reconnaît que Jésus est innocent et que la sentence qu'il subit est injuste, car il le dit, en lui, il n'y a aucun péché. Il n'a rien fait d'injuste, il n'a rien fait de mal. Au verset 42, le brigand sait que Jésus-Christ va ressusciter et qu'il va revenir pour régner, puisqu'il dit à Jésus, « Souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton règne. » Donc le brigand a su à un moment donné que Jésus-Christ allait ressusciter. Il a su que Jésus-Christ mourait pour ses péchés. Il a su que Jésus-Christ allait ressusciter. Il a su que Jésus-Christ allait revenir pour régner. Il reconnaît que Jésus-Christ est le roi du futur royaume qui s'en vient. Alors qu'est-ce qui a fait que ce brigand puisse réaliser tout cela? Et au verset 43, par sa réponse, Jésus, qui seul connaît les cœurs, reconnaît que ce brigand est devenu un enfant de Dieu. Et je pense à travers la réponse de Jésus que ce brigand a dû être rempli de joie. Il a dû être rempli d'espérance de savoir qu'il serait réuni en ce jour même avec Jésus. Et je crois dans la parole que c'est le seul moment où Jésus dit à un être humain, à un pécheur, « Aujourd'hui, tu seras avec moi. » Nous, c'est par espérance que nous le savons. Jésus se tourne vers cet homme et lui dit, « Aujourd'hui, tu seras avec moi. » Quelle parole merveilleuse pour cet homme qui a dû être apaisé. Cela a dû apaiser son âme de la peur certainement de mourir. Et ainsi, être réconforté dans ces moments de douleur. Alors, on en revient à cette question. Qu'est-ce qui a fait que ce brigand puisse reconnaître que Jésus est Dieu, reconnaître qu'il est pécheur et que son péché mérite la mort qu'il est en train de subir sur cette croix? Qu'est-ce qui a fait que ce brigand puisse reconnaître que Jésus est sans péché et que ce qu'il subit est injuste? Savoir que Jésus va ressusciter, savoir que Jésus va revenir pour régner et savoir qu'il est devenu un enfant de Dieu. La Bible explique la Bible, et dans Éphésiens 2, verset 8, Paul, inspiré par le Saint-Esprit, nous donne la réponse. Éphésiens 2, verset 8. En effet, c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Et cela ne vient point de vous, c'est le don de Dieu. Alors que nous venons de voir que les deux brigands étaient coupables et que Jésus donnait sa vie pour sauver les hommes perdus, ce qui a fait la différence, c'est la grâce de Dieu. La grâce imméritée de Dieu, un don que Dieu a fait à l'humanité par amour. Et cela ne vient pas du brigand, cela ne vient pas de nous, mais cela vient directement de Dieu. Cet homme vivait ses dernières heures et toute sa vie, depuis sa naissance et jusqu'au début de sa crucifixion, il a été un pécheur, un brigand, en suivant la voie du péché sans jamais s'intéresser à Dieu. Mais voilà que la grâce de Dieu est intervenue pendant son agonie sur cette croix. Ce brigand vient de naître de nouveau. Il vient de naître de nouveau à quelques heures de sa mort. Il vient de naître de nouveau. Il vient d'être baptisé du Saint-Esprit sur son lit de mort, pourrait-on dire. Et oui, c'est le Saint-Esprit qui lui a révélé toutes ces vérités fondamentales de la foi. Peut-être que ce brigand a été à l'école du dimanche étant jeune. Et peut-être qu'il a entendu cette histoire qu'un Messie viendrait. Mais c'est le Saint-Esprit qui lui a rappelé peut-être ce qu'il avait entendu. Et s'il ne l'a pas entendu, c'est le Saint-Esprit qui lui a enseigné ce que Jésus-Christ était en train de faire pour lui. Qu'est-ce qui est intervenu pour cet homme? C'est encore et toujours la grâce de Dieu. La grâce imméritée de Dieu, mais qui lui a été donnée par amour. Qu'est-ce que ce brigand sur la croix pouvait-il offrir à Jésus? À votre avis? Qu'est-ce qu'il pouvait offrir? En un seul mot. Il ne pouvait rien offrir sauf son péché. Le brigand sur cette croix a donné son péché, a donné sa crasse, a donné son injustice, a donné sa malédiction, a donné toutes ses mauvaises œuvres à Jésus-Christ. Il y a eu substitution à ce moment-là. Frères et sœurs, la seule chose qu'on peut donner à Christ, c'est notre péché. Il n'y a rien de nous en bon. Le cœur de l'homme, dès son plus jeune âge, est mauvais. La seule chose que ce brigand sur la croix pouvait donner, et on voit cette image, il ne pouvait pas descendre, aller chercher de l'argent, aller chercher je ne sais quoi, des sacrifices. Non, il ne pouvait rien donner si ce n'est son péché. Et Jésus a pris son péché, a pris sa grâce, a pris son injustice à ce moment-là. Il est dit dans Ésaïe 53, versets 5 et 6, « Il était blessé pour nos péchés. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui, sur Jésus-Christ. » Ce passage nous montre vraiment de manière magistrale que la seule chose que nous pouvons amener à Jésus-Christ, comme je l'ai dit, c'est notre péché, afin qu'il puisse le prendre, nous pardonner et nous laver par son sang. Et en échange, et c'est ça qui est extraordinaire, que fait Jésus? Jésus l'accueille. En échange, oui, de notre péché, Jésus nous revêt de sa justice. De sa justice obtenue à grand prix à la croix. Ainsi, étant justifiés par lui, nous pouvons nous approcher avec assurance aujourd'hui devant le trône de Dieu. Non pas parce que moi ou vous, vous êtes meilleurs. Non, parce que vous avez mis votre foi dans l'œuvre de Christ à la croix. Parce que vous avez mis votre foi dans la justice que Christ a manifestée pour Dieu le Père, afin que la justice soit rendue. Il y a eu une offense par Adam et Ève, et il fallait que justice soit faite. Cette justice a été rendue ce jour culminant, lorsque Jésus a été crucifié. Ce qui pouvait paraître comme une contradiction est en fait une puissante révélation que nous sommes tous pécheurs et méchants, qu'il n'y a personne de juste sur terre, mais que nous avons tous péché et que nous étions tous séparés de Dieu. Romains chapitre 3, versets 10 et 12, le résume. Romains chapitre 3, versets 10 et 12, ce que je viens de dire est résumé dans ce passage. Alors, en conclusion, aujourd'hui, nous tous présents ici sommes alignés derrière la croix d'un des brigands. Il y a la croix centrale, Jésus-Christ, offert pour nous tous, et il y a deux autres croix, une à la droite de Christ, une à la gauche. Et nous tous ici présents, nous sommes alignés derrière une de ces croix. En d'autres termes, il n'y a que deux réponses possibles à Christ. Ce que Luc décrit est une représentation de l'humanité et de la réponse que chaque femme et homme peuvent donner. Du plus jeune au plus ancien de nous, en fonction de la réponse que nous avons donnée à Jésus-Christ, nous sommes derrière l'un des deux brigands. Si nous ne sommes pas en mesure de reconnaître notre culpabilité, de nous savoir pécheurs et que c'est notre péché qui nous sépare de Dieu, et que rien de ce que nous pouvons apporter à Dieu ne pourra apaiser sa colère, alors nous ne pouvons pas mesurer la grâce qui nous est faite en Jésus-Christ. Mais si nous reconnaissons la gravité de notre péché, la noirceur de notre péché, qui mérite, comme nous l'avons vu, la colère de Dieu et donc la mort, c'est ce que Dieu a dit à Adam et Ève, si vous faites cela, vous mourrez. Si nous ne réalisons pas que nous n'avons rien de bon à apporter à Dieu, alors nous pouvons mesurer la beauté et l'éclat de la bonne nouvelle. C'est ce que je disais en introduction. Si pour nous le message de l'Évangile, qui veut dire la bonne nouvelle, est devenu banal, et si on n'est pas capable de mesurer encore la beauté et l'éclat de cette bonne nouvelle, nous sommes en danger. C'est l'image du diamant que j'ai déjà utilisée ici. Je ne sais pas si vous vous souvenez pour certains. Savez-vous comment faire ressortir toute la beauté d'un diamant ou du diamant? Un diamant, c'est transparent, c'est blanc, on va dire. Pour faire ressortir la lumière du diamant, il faut que le diamant soit présenté sur un fond noir. Le noir n'ajoute rien au diamant, le noir ne le modifie pas. Le noir crée un contraste qui révèle ce qu'est ce diamant. Vous l'avez bien compris, ce diamant, c'est la bonne nouvelle, c'est l'évangile de Christ. Cet évangile qu'il nous a été laissé dans la parole de Dieu. Dans l'obscurité, la lumière du diamant devient plus visible et chaque éclat ressort avec plus de force, chaque reflet prend du sens. Alors de même, l'œuvre de Jésus-Christ à la croix prend toute sa valeur, prend tout son éclat lorsque nous la mettons devant la noirceur de nos péchés. Si nous la mettons devant du gris, car nous pensons que nous sommes pas si mauvais que ça. Quand même, je ne suis pas comme Hitler qui a tué des millions de personnes. J'ai jamais tué, j'ai jamais volé. Alors nous ne mesurons pas et n'avons pas compris la grâce et la beauté infinie de la bonne nouvelle. Il est important de savoir ce que nous sommes sans Dieu pour comprendre l'œuvre rédemptrice de Jésus à la croix. Alors ce passage doit nous encourager à réfléchir à la profondeur de la grâce de Jésus à tous les jours, même dans les moments les plus sombres de notre vie. Et comme nous venons de le dire, c'est dans les moments les plus sombres de la vie que toute la lumière et la beauté de la parole se voient le mieux. Ce passage rappelle que peu importe nos luttes, nos échecs, la possibilité de rédemption et de pardon est toujours à la portée de main par la foi en Christ. Notre joie ne devrait pas dépendre de nos circonstances, aussi dures soient-elles. Et quand nous sommes dans une saison difficile de notre vie, alors méditons de nouveau la parole de Dieu. Prenons cette fiche de résumé si extraordinaire qui résume pleinement l'amour de Dieu, le plan de Dieu manifesté sur cette terre en Jésus-Christ. Pour nous souvenir que Dieu nous a sauvés d'une mort certaine, afin que le jour où Dieu nous appellera, nous soyons avec lui. Ainsi, nous puisons notre joie en nous souvenant ce que Jésus est venu nous donner sur la terre, à savoir la vie éternelle, à savoir nous sauver de la colère de Dieu qui s'en vient, à savoir d'avoir pris notre malédiction à notre place. Notre joie est de savoir que je méritais la mort éternelle, c'est-à-dire l'enfer à cause de ma culpabilité, mais quand Jésus, en son œuvre à la croix, il a pris toute ma grâce en me lavant dans son sang. Il a pris la colère de Dieu que je méritais et en échange, il m'impute sa justice. Alors aujourd'hui, si vous réalisez votre misère, si vous réalisez que vous êtes pécheur et séparé de Dieu, alors aujourd'hui, la grâce coule encore. Aujourd'hui, nous sommes le 26 avril de l'an grâce 2026. La grâce coule encore aujourd'hui. Et aujourd'hui, vous pouvez mettre votre foi, non pas dans vos œuvres, non pas dans ce que vous possédez, mais dans ce que Jésus a accompli pour vous par amour. Amen. Seigneur, merci pour ta parole. Merci Seigneur parce qu'elle est merveilleuse et elle me rappelle que je méritais la mort, je ne méritais rien. Elle me rappelle qu'à chaque jour je vis sous ta grâce. Elle me rappelle qu'à chaque jour je vis sous ton amour. Elle me rappelle qu'à chaque jour que je tombe et que je te demande pardon, tu me laves de mes péchés. Elle me rappelle qu'à chaque jour je ne suis pas meilleur que qui que ce soit. Quel amour tu as manifesté, Seigneur. Quel don merveilleux que tu as donné à l'humanité, ton Fils unique, pour sauver des pécheurs, des gens qui ne te cherchaient même pas, des gens qui ne voulaient même pas entendre parler de toi. Seigneur, je te prie pour ceux et celles qui n'ont pas encore pris cette décision ce matin, que ton Saint-Esprit puisse agir dans leur cœur, que ton Saint-Esprit, comme il a agi dans le cœur de ce brigand, puisse agir aujourd'hui dans le cœur de ces personnes, Seigneur. Saint-Esprit, révèle qui est Jésus-Christ, révèle ce qu'il a fait pour eux, révèle quel est leur péché, quelle est la noirceur de leur être, révèle que Jésus-Christ, par son sang, peut les laver, révèle que Jésus-Christ est ressuscité, et révèle que Jésus-Christ revient, afin que nous chercher, afin de chercher une église, son peuple. Seigneur, tu nous demandes simplement de prêcher ta parole, et c'est ce que j'ai fait si imparfaitement. Mais maintenant, nous comptons sur toi, Saint-Esprit, pour agir et que ta parole puisse maintenant porter du fruit. Que ton nom soit béni, Père, que ton nom soit loué à jamais, et qu'à chaque jour, nous puissions puiser notre joie en Jésus-Christ dans sa parole. Et pardonne-moi, où à chaque fois j'ai banalisé ton évangile. Pardonne-moi à chaque fois où j'ai banalisé ton œuvre, Seigneur, à la croix, ta souffrance, ton sang qui a coulé. Pardonne-moi parce que je suis un auditeur si oublieux. Mais merci parce que à chaque jour tu nous le rappelles et ce matin tu nous rappelles encore ce que tu as fait pour nous. Sois loué, Père, et sois béni parce que tu es un Dieu d'amour, tu es un Dieu merveilleux et tu es au contrôle de tout. Même si je saisis et nous saisissons pas tout ce qui se passe dans nos vies, dans ce monde, nous savons que tu es au contrôle et que tu accompliras pleinement tous tes plans, tous ces plans que tu as décrétés avant la fondation du monde, avant que le monde naisse, ne soit créé, tu avais déjà tout prévu. Nous voulons mettre encore notre foi, notre espérance dans tes prophéties, dans ta parole, Seigneur, parce que nous savons qu'elles s'accompliront. Elles s'accompliront parfaitement. Sois béni, Père, dans le nom de Jésus. Amen.